coin si proche, Découverte, le magazine des voyages. Céline Develay-Mazurel.
Et Ludivine Amado, bonjour. Il était une fois Détroit, vaste cité ouvrière, prospère de l'état du Michigan, à la lisière du Canada, au nord-est des États-Unis, au pied des Grands Lacs. Il était une fois une ville fauchée par la désindustrialisation, vidée de ses habitants, fracturée par la ségrégation raciale, sociale, jadis traversée pourtant par les luttes syndicales ou civiques. Et aujourd'hui, avec 18 milliards de dollars de dettes, Détroit est la première grande ville américaine en faillite. Son histoire, à sa façon, est celle des États-Unis, celle de la démesure urbaine, du capitalisme à l'excès, des contrastes et des symboles, du renouveau peut-être. Depuis des décennies, Détroit fascine et les voyageurs accourent du monde entier pour comprendre ce qui a bien pu mener cette ville à la ruine et rencontrer aussi ceux qui s'efforcent de la rebâtir à nouveau. Et c'est ce que nous allons faire ces deux prochaines semaines au cœur du béton et de la brique rouge en lambeaux, dans un décor post-industriel qui raconte partout, hurle aussi, le passé, l'histoire de la ville et ses hommes. Premier volet de Détroit, une histoire américaine, un voyage qui commence, comme souvent dans la ville, au pied d'une ruine.
Donc là, John Cooper, on vient de se garer devant la grande Central Michigan Station, la grande gare abandonnée.
Avec le barblé qui l'encercle.
Comme d'une immense épave à l'air libre, avec un côté gothique, fantôme assez lugubre. Et planté devant la gare, un drapeau américain qui s'agite, hein, parce qu'il y a beaucoup de vent, et qui est partiellement en lambeaux à ses extrémités. Et au pied du drapeau et tout autour de la gare, des fils barbelés. Qui la protège parce que c'est devenu un espace dangereux. Donc c'est visuellement, c'est vrai que c'est un repère dans la ville très, très particulier.
C'est un bel édifice, malheureusement abandonné. Depuis 1980, je pense.
1987, je crois, le dernier train est parti.
C'est vrai que ce bâtiment est quand même impressionnant, mais c'était construit par la Société de chemin de fer en 1900 dans l'espoir de tirer du développement du centre-ville, qu'on peut voir d'ici en voie des gratte-ciels, mais ils ont poussé trop loin le centre-ville et ça n'a pas survécu. Cette gare, j'espère un jour qu'on saura en faire quelque chose, mais dans notre temps, ça témoigne le passé. Mais bon, pour moi, c'est triste, mais à la fois, ça peut même apporter des atouts des décennies ou des siècles plus tard. On dit, voilà, cette ville a été abandonnée, et donc on n'a pas renouvelé certaines... Donc il reste encore des vestiges historiques vachement intéressants.
Cerise Maréchaux, bonjour.
Bonjour.
Alors vous qui êtes partie pour nous à Détroit, quelle intrigante visite vous nous offrez là?
Oui, et surtout quel bâtiment. Ouverte en 1913, cette gare située à la lisière du centre est immanquable pour quiconque circule dans la ville. Imaginez une tour haute de 70 mètres, un immense hall avec des plafonds en coupole, des colonnes à l'image des thermes romains. Le tout aujourd'hui dévasté, comme dans un décor de film post-apocalypse. Un vrai repère pour les explorateurs urbains.
Alors il faut dire que Détroit et ses 70 000 édifices abandonnés poussent à cette exploration urbaine parmi les ruines, cette archéologie du 21e siècle.
Oui, et cette gare est vraiment symbolique de l'histoire de Détroit. Elle rappelle l'arrivée de tous ces ouvriers venus bâtir le rêve américain. En 1950, Détroit comptait près de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, il n'en reste que 700 000.
À Détroit, le passé et ses cicatrices sont donc partout présents. On vous retrouve avec John Cooper, un ingénieur automobile francophone et grand amoureux de la ville.
C'est quoi les cloches qu'on entend?
Les cloches sont les cloches de l'église de Mariners Church, qui est une église de marins, parce que la ville de Détroit est au point stratégique qui lie les trois lacs, on appelle les Upper Lakes, les lacs supérieurs, avec les lacs inférieurs, donc le lac Erie et le lac Ontario. Les grandes mines de minerai de fer au bord du lac supérieur ont pu être transportés par bateau en moyen très bon marché. Ici, sur les lacs du sud, que ce soit Detroit ou bien Cleveland ou même Chicago. Et en fait, c'est la raison pour laquelle vous avez tant d'industries ici au bord des Grands Lacs et la raison pour laquelle l'automobile a commencé ici aussi, parce qu'il y avait de l'acier. Et jusqu'au point où Henry Ford, lorsqu'il a construit son grosse usine ici à Rouge River, comme on dit en bon américain, Rivière Rouge, il n'a pas simplement fait l'usine, mais il a construit une usine pour produire de l'acier. Il était propriétaire des bateaux qui amenaient le minerai de fer. Il était même propriétaire des mines dans le Nord. Et c'est une formule qui marchait très bien à l'époque, mais les sociétés de voitures américaines sont restées intégrées trop longtemps et ils n'étaient pas assez exposés à la concurrence. Et c'est ça qui leur a fait beaucoup de mal aussi.
L'industrie automobile a fait de Détroit ce qu'elle est aujourd'hui. Cette industrie emploie régulièrement des milliers de travailleurs. Jean Beauvais travaille dans l'atelier des lames de métal et du moulage. Quand le précédent chef matriceur fut élevé au rang de contremaître du service, Jean devint chef matriceur. Et quand le contremaître sera promu à une position encore plus élevée, il y a une forte chance pour que Jean soit nommé contremaître. C'est ce qui est arrivé à la plupart des ouvriers. Ils travaillent dur et essaient de se perfectionner.
Motor City, c'est le surnom donné à Détroit à l'époque où l'industrie automobile faisait vivre quasiment toute la ville. Une époque de mono-industrie donc, de paternalisme industriel, mais aussi de progrès social pour des milliers de travailleurs, Cerise.
Oui, et c'est véritablement ce que Détroit nous raconte. Dans le centre, à Downtown, les gratte-ciels côtoient les cheminées d'usines. Et en quittant le centre, on va d'entrepôt en terrain vague jusqu'aux banlieues pavillonnaires qui accueillaient les employés.
C'est donc, Cerise, une histoire populaire, ouvrière, une époque aussi de bâtisseurs.
Oui, et s'il y en a un qui a bâti la ville autrefois, c'est bien l'industriel américain Henry Ford. À Détroit, un immense musée lui est consacré, à sa gloire et à celle de son pays, les États-Unis.
Le tout adossé à l'usine historique de Ford, Rouge Plant, et c'est Steve Harris qui vous y a guidé.
On va commencer la visite par l'entrée du musée. Monsieur Ford a fait construire ce musée en 1929 pour accueillir sa collection qui renvoie aux idées et aux innovations américaines. Henry Ford a dit « La vraie histoire, c'est celle des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. »
Maintenant, nous sommes dans une grande salle avec des dizaines de voitures de collection.
This is the story of manufacturing.
Ici, on raconte l'histoire de l'industrie, l'art de la production de masse. Henry Ford a été le premier à concevoir et à intégrer un tel système de production automobile à la chaîne. Et il a dit « Je vais construire une voiture pour les masses, une voiture du peuple ». C'était sa vision. Et cette voiture qu'il a conçue s'appelle le modèle T. La clé de son succès tient en un mot, la simplicité. C'est une voiture simple. Là, nous nous trouvons justement face à une voiture modèle T qui a été partiellement désassemblée et que vous voyez suspendue par des câbles. Et vous voyez, elle est surtout en bois, avec très peu de pièces. À l'époque, en 1914, la moitié des voitures dans le monde entier étaient des modèles T de Ford. L'autre innovation majeure, c'est le système de production de masse, la chaîne d'assemblage. C'est ce qui a permis une productivité 10 fois supérieure au taux normal. Mais quand il a proposé ce système, les ouvriers n'ont pas vraiment aimé.
Pourquoi ?
C'était trop dur. Ils ne pouvaient pas faire de pause. Ils devaient rester debout au même endroit toute la journée et répéter tout le temps le même geste. poser la roue, par exemple. C'était très ennuyeux. Donc, la plupart des ouvriers ont démissionné. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a doublé les salaires à l'usine. Et là, les gens sont venus de tout le pays pour ce travail, à la fois très peu qualifié et très bien payé. C'est 5 dollars par jour, ça va contre tous les principes du business. Mais Henry Ford s'est dit, si je partage mes profits avec les ouvriers, alors je vais créer une immense classe moyenne. Et en quoi ça a arrangé M. Ford ? Eh bien, maintenant, il pouvait acheter ses voitures.
I've got $5, I'm in good condition, and I've got ambition that belongs to you. Six shirts and collars, that's beyond endurance, on my life insurance, that belongs to you. Take my $5, take my shirt and collars, take my heart that hollers, everything I've got belongs to you.
S'il y a une rêve de Detroit qui a disparu, c'est justement la période industrielle où les moyens de production avaient besoin des mains pas hautement qualifiées. Donc on pouvait prendre n'importe qui, sans éducation, souvent illettré, pour dire, voilà, vous restez la chaîne, vous montez pièce A avec pièce B, et puis vous faites tel tel, voilà. Et dans l'espace de 2 ans, vous avez de moyens de vous acheter une maison. Alors c'était impensable ailleurs dans le monde et même ailleurs aux États-Unis. Faut se rendre compte que Détroit est devenu le moteur de matériel de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les GIs ont quitté leur boulot et voilà, les sociétés industrielles de Detroit ont envoyé des agents, même des trains vides pour chercher des travailleurs qui pouvaient venir remplacer les GIs. Et puis ils sont allés au sud parce qu'il y avait beaucoup de pauvres, aussi blancs que noirs au sud des États-Unis. Donc ils avaient la chance de venir travailler pour des bons salaires dans des usines où il fallait pas de qualifications, il fallait pas d'entraînement. Vous arrivez, vous avez 2 mains, 2 yeux, allez-y, et vous rentrez tout de suite dans la classe moyenne.
Installée dans un parc dans Southwest Detroit, un parc très agréable, très calme. Je suis avec Charles Richardson. Vous, Charles, vous êtes né à Détroit ?
Oui, je suis né à Détroit en 1948. Et comme tous les Noirs dans les années 50, on vivait tous ensemble dans une grande maison avec la grand-mère, les oncles, les tantes, les cousins.
I work for the big three, basically. Moi,
j'ai travaillé pour les 3 grandes compagnies automobiles. J'ai commencé chez Ford, à l'usine Rouge River. J'avais 17 ans. Il fallait en avoir 18. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était en 1965. La Mustang venait de sortir, mais j'ai jamais travaillé aussi dur de toute ma vie. On en fabriquait 600 par nuit.
600 par nuit ?
600 cars a night, you know, you come in at...
Oui, 600. On pointait à 15h30. Et on sortait à minuit. Et j'ai vu un gars faire une crise cardiaque sous mes yeux. Ils ont arrêté la chaîne d'assemblage, juste le temps de l'enlever et de le remplacer. J'avais 17 ans, j'arrivais pas à tenir le rythme. Je revois encore le contremaître me dire «
You custom parts, I'll come down there and kick your ass. I'm looking at him. »
Intérêt à attraper cette pièce ou je descends te botter le cul. Je me disais, bon, si je m'embrouille avec lui, ça sera peut-être un bon moyen de me faire virer. Mais c'est ma grand-mère qui m'avait dégoté le boulot. Je lui rapportais pas mal d'argent quand je bossais là-bas. J'y suis resté finalement à peine 3 mois. J'ai même pas fini ma période d'essai. J'étais tellement content de partir de là. Un an après, en 1967, j'ai trouvé un boulot à General Motors, aux pièces détachées. C'était tellement facile là-bas comparé à Ford, je n'y croyais pas. Ça m'a pris 3 mois pour me calmer, au lieu de sauter dans tous les sens, comme à Ford. On faisait les courroies de transmission, le châssis en chrome, et je suis resté 22 ans.
So I stayed there for 22 years, you know.
Dans les usines automobiles, les ouvriers noirs travaillaient avec les ouvriers blancs ou il y avait une ségrégation également?
Yeah, we had a lot of Polish.
À l'époque, il y avait beaucoup de Polonais qui nous faisaient de la place petit à petit. Je leur disais souvent, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Prenez votre retraite, qu'on récupère vos postes. Parce que nous, on faisait les sales boulots. On était balayeurs, nettoyeurs. Et quand ils sont enfin partis en retraite, on est monté en grade. Moi, j'ai bossé sur le polissage des roues et j'ai travaillé à General Motors jusqu'à la fermeture de l'usine.
Avant la chute et les fermetures d'usines en série, Détroit a connu le faste et l'insouciance du plein emploi cerise.
Oui, et dans le centre, on perçoit bien cette folie des grandeurs. Des immeubles toujours plus hauts, des artères toujours plus grandes. Or, aujourd'hui, il y a une impression de vide, de décalage en fait entre la réalité et ce fameux rêve américain. Surtout quand on entre dans l'opéra de Détroit, situé au cœur de Downtown.
Ce lieu, après plusieurs années d'abandon et de collecte de fonds, a retrouvé son lustre d'antan. On vous suit, Cerise, en compagnie de Michael Hauser.
Ce théâtre a été construit à l'époque où la population de Détroit a littéralement doublé grâce à l'industrie automobile. Il n'y avait pas seulement ce théâtre, mais il y avait une douzaine de théâtres et de cinémas tout autour de Grand Circus Park, qui est l'épicentre du quartier du spectacle de Downtown.
Ah oui, c'est étrange d'être dans le centre-ville de Détroit, qui est quand même tout en béton gris, et d'entrer ici, et c'est un palace en dorure. Du doré, du bleu, des couleurs pastel, des balcons ouvragés, des lustres superbes, des plafonds travaillés.
Le plafond a été volé pendant les 4 années où le théâtre était abandonné. Ici, tout était en vitraux peints, mais des pilleurs les ont arrachés pour les vendre à la pièce. Donc, nous avons dû recréer ce décor grâce à l'argent récolté et aux photos d'époque, toujours en vitraux peints, avec des chandeliers, exactement comme était le théâtre quand il a ouvert en 1922. L'architecte Charles Howard Crane a étudié les opéras d'Europe, ce qui l'a beaucoup inspiré pour celui de Détroit. À l'époque, ce n'était encore qu'un cinéma, mais un cinéma aux allures d'opéra.
Donc à l'époque, à l'ouverture de cet opéra en 1922, c'était vraiment un événement, c'était un lieu très important aux États-Unis pour le monde du spectacle.
5000 personnes faisaient la queue devant à l'inauguration. Personne n'avait jamais vu un tel théâtre. Ici, il y a 4000 places. En tout, à Détroit, autour de ce parc, il n'y avait pas moins de 26 000 places de théâtre. C'était le quartier du spectacle, l'un des plus grands de tous les États-Unis. Détroit a toujours été une ville pionnière à plein de niveaux, notamment dans l'industrie du spectacle.
Pourquoi Détroit s'est très tôt associé à l'entertainment, au fait de sortir, de voir des spectacles?
À cause de la population, il y avait assez de monde pour remplir toutes ces salles. Et puis, autour de Downtown, à l'époque, nous avions un excellent système de tramways et de trains de banlieue. On avait aussi des bateaux à vapeur, vraiment beaucoup, beaucoup de moyens de transport public. Donc, ça a amené beaucoup de monde au centre de Détroit. Donc, non seulement la population a doublé, mais en plus, avec tous ces emplois dans l'automobile, il y avait sans cesse des arrivées de travailleurs, plus de 100 000 qui travaillaient à Downtown. Et puis, il y avait tous les commerces autour. Ici, c'était comme une ville dans la ville. Mais bon, tout cela a fermé progressivement dans les années 70, quand Downtown a commencé à sombrer.
Si loin, si proche, le magazine des voyages.
Détroit. Yeah. It's been a lot of history with Detroit.
Et vous, Marion, qu'est-ce qui vous attire dans ces ateliers photographiques dans les ruines de Détroit?
J'ai toujours été assez passionnée par les ruines. C'est intéressant de se dire que la civilisation peut faillir. Parce qu'en fait, je pense qu'on croit tellement en nous qu'on n'imagine même pas que c'est possible. C'est vrai que ça a joué un rôle important dans la manière de considérer Détroit comme une ville fantôme, où il n'y a que des drogués, des SDF. Mais en même temps, quelle chute pour la ville de Détroit. Et c'est vrai que c'est ça qui l'illustre le mieux, puisque les ruines, c'est l'échec d'une ville qui a été peut-être un peu trop gourmande sur la prospérité.
On est toujours à Détroit, dans la première grande ville américaine à avoir connu la faillite. Faillite de ses finances publiques, de ses institutions aussi. Les photographes des lieux abandonnés s'en donnent à cœur joie et contribuent à perpétuer l'image d'une ville en ruine. Une ville fantôme, Cerise.
Oui, Céline, et pourtant, quand on va à Détroit, on rencontre tout un tas d'habitants des Detroiters, fiers de leur passé et soucieux de leur avenir, qui cherchent justement à partager autre chose que cette pierre en lambeaux ou ces lieux vides. C'est le cas de John Cooper, un ingénieur automobile né à Détroit que j'ai rencontré. Il est passionné par l'histoire et la richesse de sa ville.
Une ville fondée au début du XVIIIe siècle par des Français, d'où son nom à consonance française, donc Détroit, un nom donné à la rivière qu'il aborde. Et c'est là d'ailleurs qu'on vous retrouve en compagnie de John.
On est ici à Hart Plaza. C'est le centre, si vous voulez.
Donc là, on est sur ce qu'on appelle le Riverfront, hein.
Oui, c'est ça. C'est au bord de la rivière, c'est en face du Canada. Et nous sommes au pied de Woodward Avenue, qui est la route principale commerciale à l'époque. Jusqu'aux années 70, quand vous voulez aller faire des courses, c'était au Woodward Avenue, downtown Detroit. Vous allez Hudson's Department Store, le grand department store très chic de Detroit, a été démoli il y a 15 ans. Et c'est un point très triste pour tous les résidents de la région. Tout le monde avait des souvenirs. Ce bâtiment en briques, vous le voyez mal d'ici, en briques rouges, ça a été, comme beaucoup de beaux bâtiments, conçu dans les années 20, et ça s'appelle le Guardian Building. C'était construit par une banque, mais c'est fait dans un style art déco, très spécial, style indien, je pense aztèque. Plus loin...
Ça fait partie des grands bâtiments art déco magnifiques de Downtown Detroit,
exact,
qui ont fleuri dans les années 10 et 30.
Exact. C'est de cette époque. Et bien sûr, le crash de 29 a arrêté beaucoup de choses partout dans le monde. Et plus loin, il y a un autre bâtiment qui s'appelle le Fisher Building, qui était la première aile d'un complexe énorme. Le complexe n'a jamais été réalisé, mais déjà, la seule aile qui a été faite est un splendeur magnifique, il faut le visiter, c'est génial. Et vous pouvez voir les trésors d'architecture, même dans beaucoup de cas, abandonnés, mais il y a encore des beaux bâtiments de cette époque à admirer le long de Woodward Avenue. Et si vous faites les 30
km, 30
km 30 km, Woodward Avenue, c'est un des boulevards le plus important des États-Unis, je ne sais pas, ça fait 30 km d'ici. Ça part d'ici jusqu'à Pontiac, mais bon, c'est un point important. Ici, la rivière sert comme Zero Mile, et tous les Mile Roads, il y a une route principale est-ouest. Puis après, à partir de 3 ou 4, on l'appelle 4 Mile, 5 Mile, 6 Mile.
Une sorte de gradation.
Exact. En fait, c'est la limite nord de la ville. Et en fait, la fuite blanche... Dans les années 60 et 70, l'idée, c'était pour se sauver, il faut aller de l'autre côté de 8 Mile parce qu'on n'est plus dans la ville. Donc, c'est un seuil psychologique pour beaucoup de gens de la région. Ah oui, ils vont dire, ah oui, je ne vais jamais en dessous de 8 Mile. Ça veut dire dans la ville de Detroit.
Et ça veut dire dans des quartiers principalement noirs et pauvres.
Oui, mais aussi, ce sont des quartiers les plus intéressants, avec des beaux bâtiments des années 20. Mais il y a trop de banlieusards qui refusent, qui disent « Ah oui, non, j'irai jamais. Ah oui, peut-être pour une partie de baseball. Mais à part ça, j'ai peur. » Et je dis « Ah, c'est ridicule, c'est ridicule. »
« Cette fuite blanche, ou white flight, débutée dans les années 50 à la faveur de l'expansion urbaine, a profondément marqué la physionomie de la ville. Mais est-ce qu'elle est encore perceptible, cerise, aujourd'hui à Détroit ?
Oui, surtout en dehors du centre, où les quartiers sont très segmentés par communauté. Plus de 80% de la population est afro-américaine, et les mélanges sont encore trop rares.
Mais est-ce qu'il y a quand même des habitants qui croient en la mixité sociale, raciale, voire les deux ?
Oui, bien sûr. À Downtown, par exemple, il y a le 1515 Broadway, un café-concert qui sert de repère aux activistes et aux artistes de tout poil à Détroit. C'est une institution locale, un vrai lieu de mixité, entre les couleurs, les âges, les classes sociales, etc. Un lieu fondé par Chris Jazak, un enfant de la ville d'origine polonaise. On le croit souvent au pied de son café, surtout le matin.
La première chose que vous faites le matin, c'est d'acheter votre journal.
Après vous.
Donc vous habitez juste au-dessus du café, Chris ?
Oui, j'habite ici depuis 1985. Je suis vieux, vous savez. J'ai ouvert en bas en 1987. C'était contre la tendance. À l'époque, les entreprises, les commerces quittaient Détroit, le centre se vidait.
Donc là, on est dans un immense loft.
Cet immeuble a été construit en 1925, au moment où l'industrie automobile a explosé à Downtown. Mon père, après avoir servi durant la Seconde Guerre mondiale, est revenu à Détroit, dans la maison où il avait grandi, entre la 29e rue et Michigan Avenue. Il est retourné travailler dans l'usine Fisher Body, où il travaillait avant la guerre. Il sortait de chez lui, attrapait le tramway au coin de la rue jusqu'à l'avenue Woodward, dans le centre, prenait un autre tram et descendait à l'usine. Et à l'époque, il faut avoir en tête qu'on avait vraiment un système de transport public très performant. On était même en avance sur d'autres villes. Mais à mesure que la voiture s'est popularisée, il a été démantelé. Et ça, ça raconte comment Détroit s'est mis dans le pétrin.
En 1954,
l'usine de mon père a été déplacée à l'extérieur de la ville, à la campagne, là où les propriétés n'étaient pas chères. C'était à l'époque de la GI Bill, cette loi qui a facilité des prêts très avantageux aux vétérans de la Seconde Guerre. Tous s'installaient donc dans de nouveaux quartiers, des banlieues à l'extérieur de la ville. Et nous voilà avec ma famille, déménageant là-bas, payant nos impôts là-bas, faisant nos courses là-bas. Notre argent ne profitait plus à la ville de Détroit, et ça, ça s'est passé des centaines de milliers de fois. Et pour rejoindre ces quartiers, ils ont construit des autoroutes. Vous savez, le tout premier mall des États-Unis, un immense centre commercial, a été construit ici, juste à l'extérieur de la ville. Et deux des plus grands constructeurs de malls du pays viennent de Détroit. Avec une voiture et toutes ces autoroutes, on pouvait aller n'importe où. Et les gens sont partis toujours plus loin. C'est hallucinant. Notre tramway a depuis été supprimé, démantelé. On l'a vendu à la ville de Mexico parce que les autoroutes sont arrivées.
We sold it to Mexico City. The freeways went in.
C'était au nord. Ok. On va reprendre Michigan Avenue ici. Second, ça passe, j'espère. Oh non, ça passe pas. Découpé par l'autoroute.
Les autoroutes qui strient, qui balafrent vraiment la ville de part en pas.
En fait, je trouve qu'ils avaient les bonnes intentions, les planificateurs des années 50, mais ils se sont trompés. Donc, ils ont subventionné la construction dans les banlieues. De toute façon, il y avait la place, c'était la mode. Donc, il faut gérer la circulation. Ils ont fait ça avec des autoroutes. Il y a 7 autoroutes qui découpent la ville de Detroit, qui ont coupé des quartiers à gauche, à droite. Et les autoroutes ont réussi à segmenter ces quartiers et à les fragiliser.
Mostly sunny skies today with a high of 74. Clear skies tonight with overnight temperatures in the mid-50s. It's partly cloudy, 50 degrees now in Detroit. It's 710 at WDET.
Baby, baby, where did our love go?
You know.
Baby.
Et non, vous êtes bien sur RFI avec Diana Ross and The Supremes.
Ross grew up maybe a 10-minute walk from here.
Diana Ross a grandi peut-être à 10 minutes d'ici. Et tous les artistes Motown vivaient tout près d'ici. C'est vraiment un son nouveau, le son de la nouvelle Amérique.
Before Berry Gordy, we had what you call race music. You had black music and white music.
Avant Berry Gordy, il y avait ce qu'on peut appeler une musique raciale. D'un côté, la musique noire, de l'autre, la musique blanche. Et Motown est arrivé à réunir les deux. C'est pour ça qu'elle a eu autant de succès. À l'époque, partout dans la ville, on voyait des groupes qui répétaient, chantaient, chantaient et chantaient. Tout le monde essayait de rentrer à la Motown. C'est ça, Détroit, un endroit vraiment fascinant. C'était vraiment
Paris.
Et c'est vrai qu'on a souvent comparé Détroit et Paris pour son effervescence et son avant-garde culturelle surtout. Ici, comme vient de nous le rappeler Larry Mongo, se sont écrites de nombreuses pages de la musique américaine, qu'elle soit contestataire ou grand public. La techno, par exemple, est née à Détroit dans les années 80. La musique Motown, elle, est un pur produit de l'après-guerre, une bande originale de cette Amérique du baby-boom. Et l'histoire de la Motown, contraction de Motor Town, est à découvrir aujourd'hui à Hitsville, USA, à Détroit, dans un petit musée de poche créé en 1980. Et pourtant très touristique, Cerise.
Et parmi les vinyles et les objets ayant appartenu à Michael Jackson, Marvin Gaye et tant d'autres, on comprend mieux pourquoi ce petit label lancé en 1959 par Berry Gordy dans sa propre maison est devenu une usine à rêves. Et c'est Alan Rawls, son directeur, qui m'y a guidé.
This is Studio A. This is where all the music.
Alors là, on est dans le Studio A, c'est là où cette musique et toute cette magie est née. On est au cœur de Hitsville, USA, au musée Motown. Et si vous regardez là autour de vous, vous voyez ces photos des Supremes, des Temptations, là c'est Smokey Robinson, Stevie Wonder, les Funk Brothers, tous ces artistes et beaucoup d'autres encore ont enregistré leur grand tube ici, là, dans ce Studio A.
The wood floor. The acoustical tile.
Le parquet, les panneaux acoustiques au mur, au plafond, tout ça c'est d'origine. C'est le père de Berry Gordy, Gordy Senior, qui les a construits.
Berry Gordy Senior or Pops Gordy.
La batterie là-bas, ouais, tous ces instruments sont d'origine.
Yes, these are all.
Oui, tous ces instruments font partie de la collection du musée Motown.
Les photos sont magnifiques.
Alors, ces photos datent bien sûr des années 60. Là, vous voyez sur celle-là, Smokey Robinson, Berry Gordy, tous à une réunion d'équipe.
Ça, c'était les fameuses réunions de contrôle qualité.
Every Friday.
Oui, ça se passait tous les vendredis à 9h. Le studio A se transformait en salle de réunion. Tout le monde s'installait pour écouter les chansons fraîchement produites, les futurs hits, et puis il y avait un vote pour décider si c'était un tube, un raté, ou s'il fallait encore travailler dessus. Monsieur Gordy s'est inspiré de ses années à l'usine automobile, avec cette idée qu'un produit doit être testé avant d'être présenté au public, plutôt que d'être envoyé là comme ça, en espérant que ce sera un succès. Il planifiait le succès. Et à l'usine, quand une voiture a été fabriquée, elle arrivait par une porte, à l'état de châssis en métal, et finalement, elle sortait flambant neuve, toute brillante, par l'autre porte. Ces principes de base, Berry Gordy les a appliqués à la Motown. D'ailleurs, à l'entrée du musée, on voit deux portes. Et c'est comme un clin d'œil. Par une porte entrait les talents à l'état brut, pour ressortir par l'autre porte, en star étincelante et polie, comme les Supremes, les Four Tops, Stevie Wonder, tous prêts à divertir le monde.
Stevie Wonder, that, you know, could entertain the world.
Mr. Sullivan, now I want you to clap your hands, stomp your feet, jump up and down, do anything that you want to do.
It really speaks to how
la Motown raconte vraiment ce que ressentaient les adolescents de l'époque, les baby boomers des années 60. C'était l'après-guerre, nous n'avions pas souffert comme nos parents, on avait la radio et la télé, tout un tas de choses nouvelles.
Donc un optimisme de cette génération, et en même temps les années 60 à Détroit, c'était quand même difficile pour beaucoup de monde.
Well, as I was growing up in the 60s,
ben moi, j'ai grandi dans les années 60. Je me souviens, c'était une époque heureuse. On savait que la situation était loin d'être parfaite, mais c'était une époque prospère. Il y avait de la violence policière et d'autres problèmes, mais il y avait des idées de progrès. Donc pour moi, Détroit, dans les années 60, n'était pas une ville sur le déclin. Au contraire, elle était en pleine progression. Et bien sûr, quand les émeutes raciales ont eu lieu en 1967, eh bien là, ça a été un revirement qui aurait ébranlé n'importe quelle ville.
Ici, sur la 12e rue où les émeutes ont commencé, après une descente de police dans un bar, des arrestations sont en cours. Autour de nous, c'est la dévastation totale. Des rues rayées de la carte, des quartiers détruits. Les dégâts matériels sont estimés à 500 millions de dollars. En revanche, la souffrance humaine et la douleur psychologique, elles sont inestimables.
Tom Leach, CBC News, Detroit.
Pour bien comprendre ce qui s'est passé avec les émeutes de la communauté noire de Détroit en 1967, je pense qu'il faut remonter quelques années avant. Les plus âgés voulaient à tout prix s'intégrer. Ma grand-mère, par exemple, avait acheté une maison sur la rue Euclid. C'était une des premières noires à arriver dans ce quartier blanc. Et moi, ça m'énervait de la voir être aussi polie, docile quand elle croisait un blanc. On lui disait bonjour et elle répondait
« Oh yes !»
Vous savez, elle venait du sud des États-Unis. Nous, les jeunes noirs, on n'avait pas ce complexe d'infériorité. On voulait être libre et on s'en foutait de savoir si on vivait avec les blancs ou pas. Il y avait un peu d'intégration, mais la ville en général était vraiment raciste. Et elle l'est toujours, c'est juste un peu moins évident. À l'époque, la police nous harcelait. Il suffisait d'avoir une coupe afro et d'ouvrir sa gueule et les flics nous frappaient avec leur matraque. C'était dingue.
Sastem or something. It was kind of crazy, but
ça vous est arrivé à vous ça?
Yes, yeah.
Oui, on était traités comme des citoyens de seconde zone. On nous refusait l'accès à l'éducation, au travail. C'était une discrimination institutionnelle. D'ailleurs, tout le pays nous discriminait.
Then the riots came in 67.
Et puis les émeutes sont arrivées en 1967.
Certain blacks. Do what they wanna. Certain blacks. Go out there.
Ça a commencé dans un bar de nuit, dans un quartier, avec pas mal de petits trafics de Paris. Il y a eu une bagarre, les policiers sont arrivés, des gens s'en sont pris à eux, et ça a dégénéré. Ils ont mis le feu à des bâtiments, et puis les pilleurs ont dévalisé les boutiques. C'était vraiment Noël en juillet.
It was like Christmas in July.
Ça s'est répandu sur près de 8 kilomètres à la ronde. C'était fou. Je me souviens m'être réfugié chez des voisins qui m'ont dit « Allez, viens ici, ils tirent sur les gens ». Et puis, ils ont instauré le couvre-feu. On ne pouvait plus sortir après 5 heures du soir. La garde nationale a été envoyée pour bloquer la 12e rue. Ils ont tué près de 40 personnes. La plupart étaient noires. C'était politique tout ça. La situation pourrissait depuis longtemps. Et là, ça a fini par exploser. Et de là, tout a basculé. Le peu de blancs qui restaient en ville ont fui dans les banlieues parce qu'à Détroit, c'était le chaos.
John Hooker chante le chaos de sa ville et Charles Richardson, ancien ouvrier automobile, que l'on vient d'entendre, a été profondément marqué par ces tensions raciales qui ont agité l'Amérique des années 60, Cerise.
Oui, et Détroit, encore une fois, sera en première ligne dans la lutte pour les droits civiques, mais aussi contre la guerre du Vietnam.
Alors Détroit, devenu majoritairement noir, va élire en 1973 le premier maire afro-américain de l'histoire des États-Unis. Cette élection à Détroit n'empêchera pourtant pas les clivages sociaux et raciaux de se creuser, sans parler du trou dans les finances publiques.
Oui, et aujourd'hui, dans la ville, la dette publique de 18 milliards de dollars de Détroit est un sujet omniprésent dans les conversations, comme sur Verner Highway dans le sud-ouest de Détroit, avec Taylor, un vendeur de journaux, mais pas n'importe lequel.
Oh, moi je suis un vendeur de journaux des temps modernes. Ce que je fais, c'est que je vends l'édition du dimanche à quiconque la réclame, ou bien s'informer sur ce qui se passe dans notre ville. Je sais pas si vous savez, mais notre ancien maire, Kwame Kilpatrick, il vient d'être envoyé en prison pour plus de 25 ans.
What's up, bro? For sure, chillin', you good? You want more? For sure, bro. Yes, sir. In Detroit, here, Detroit itself, now we're bankrupt. I think we're the first major city.
Vous savez, ici à Détroit, on est en faillite. On est la première grande ville américaine en faillite. Et ça, eh bien, c'est parce que des gens derrière leur bureau à la mairie ont conduit la ville à sa perte. Ils ont volé notre argent. À Détroit, dans mon quartier, il y a un coin où plus d'une douzaine de maisons ont été abandonnées, toutes vides.
One block that has about 12 houses in a row, all vacant.
Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de compagnies d'assurance ont abusé de la confiance des gens en imposant une assurance globale avec une hypothèque à la clé. Moi, je connais un gars, sa traite était de 462 dollars et tout d'un coup, comme les taux étaient variables, elle est passée à 1542 dollars par mois.
His payment went up to $1,542 a month. And I said about
Eh bien, ce gars, en 6 mois, il a perdu sa maison et ça a détruit son mariage. Je suis vraiment triste pour lui. Ça, c'est juste un exemple. Il y en a tellement d'autres aux
États-Unis.
Mais quand l'économie s'est effondrée vers 2006, l'État a donné des millions, des milliards de dollars à ces compagnies d'assurance pour qu'elles s'en sortent, alors qu'elles avaient laissé les gens s'enfoncer. Et pour nous tous, les gens du peuple, rien. Alors que c'est nous qui faisons marcher les compagnies d'assurance, l'industrie automobile, les usines. C'est nous la force de travail.
This is an area near the city airport.
Ici, vous êtes dans un quartier situé près de l'aéroport de la ville qui s'appelle Georgia Street, qui avant était plein de maisons, d'églises, d'écoles et de tout un tas de bâtiments. Et maintenant, vous avez juste ces rues bloquées par des barricades de béton et des hectares de terre en friche. Avant, il devait y avoir une population autour de 2 à 5 000 personnes tous les 2 km carrés. Et aujourd'hui, il y en a quoi, quelques centaines à peine.
A few hundred.
Et donc là, on grimpe une colline de terre, de gravats.
You can see all around us.
Vous pouvez voir autour de nous. D'ici, vous voyez les traces de tous ces pâtés de maisons, ces blocs. Là, tout autour, ça fait 16 blocs.
Qui ont été rasés.
Oui, mais c'est évident. Donc il y avait bien une raison à ce que tout cela soit classé insalubre et détruit, parce que ça se vidait. On peut considérer que c'est une bonne chose, mais en même temps, nous avons aujourd'hui des quartiers totalement vides dans notre ville. Et les rues retrouvent presque leur état naturel d'origine. C'est un cycle assez fascinant. C'est là que l'ancien Détroit s'arrête, là aussi où le nouveau Détroit commence. Parce que ça y est, on y est. On est vraiment à l'étape finale de la vieille ville. On ne peut que tout recommencer.
Un magnifique coucher de soleil.
La lumière est belle, non ?
Retrouver une ville à taille humaine, c'est l'enjeu que vit Détroit aujourd'hui. De nombreux habitants, comme le photographe Jeff George, que l'on vient d'entendre, se battent d'ailleurs pour sa renaissance. Une histoire toujours américaine qu'on vous raconte la semaine prochaine. Cerise Maréchaux, Ludivine Amado, Céline Develay-Mazurel. On vous dit donc à la semaine prochaine. Salut à tous.